L'église multiethnique, l'église multiculturelle, qui est un phénomène qui est de plus en plus à jour et sur lequel il est important de réfléchir, parce que les choses changent, mais c'est pas pour ça que la Bible n'est pas à jour. Et donc, voilà, dans notre mondialisation d'aujourd'hui, les populations se déplacent. Et finalement, on a du monde qui va dans tous les sens, et surtout dans nos grandes villes et nos grandes zones industrielles, on commence à avoir des gens issus de toutes sortes d'origines. On emploie le mot ethnie, on emploie le mot de différentes cultures. Et l'Église, quelle est sa place là-dedans et quelle est sa vision, comment voir cela? Et donc, un peu, je vais vous bousculer un peu dans vos pensées peut-être, et vous provoquer, s'il y aura peut-être des idées nouvelles. Et donc, je vais faire la présentation, c'est moi qui ai parlé cette heure, mais demain, on aura l'occasion de discuter. Vous pourrez poser les questions. Moi, c'est un sujet qui me passionne, qui me fascine, et que je trouve extraordinaire, et je remercie le Seigneur de ce que je sois en région parisienne, où je peux voir ça se mettre en œuvre. Voilà. Déjà, il faut aller dans le bon sens. Alors, Dieu a créé Adam. La Bible enseigne, Dieu a créé Adam, premier homme. Et dans cet homme, Dieu a créé une grande diversité. Diversité dans autant la couleur des yeux que les cheveux, que les tailles, que toutes sortes de choses. Au point que il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Il y a une grande diversité et tout est issu de Adam. Bon, vous savez qu'on est arrivé à un point où tout était réduit à la famille de Noé. C'est finalement, il y avait du monde, mais on est resté, Dieu a sauvé 8 personnes. 4 couples. Si vous fallait faire une photo de famille, de la famille de Noé, c'est sûr que c'est une famille très mélangée. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui est issu de cette famille-là. Soit ça se voyait, soit ils étaient porteurs de certains traits et gènes. Mais dans ces 8 personnes, il y avait tout ce que nous avons aujourd'hui dans notre monde. Tout était là. Alors, après, il y a eu la tour de Babel, Genèse chapitre 11. Les hommes s'étaient tous rassemblés à un certain point, et puis ils ont dit, voilà, nous sommes tous là, nous avons tous une même langue, nous sommes tous un même peuple, nous sommes tous un, nous allons construire une tour, et puis nous allons accéder jusqu'à Dieu. Et c'est nous qui allons aller vers Dieu, alors que Dieu avait dit à Adam, il a dit, multipliez et remplissez la terre. Donc leur pensée était un acte de révolte. En général, on ne pense pas à cette idée de le fait d'être un, et d'être tous conformes, tous uniformes, tout ça. On pense ça, c'est une belle chose. Notre Dieu n'est pas un Dieu de conformité ni d'uniformité. Regardez la nature. Prenez les mouches, vous prenez les papillons, vous prenez les arbres, vous prenez n'importe quoi, c'est une variété, une variété. Ce qui est caractéristique de Dieu, c'est la variété. Et donc, lorsque nous avons un système où tout le monde doit être pareil, et penser pareil, tout c'est pareil, vous savez que c'est pas Dieu. Ça ressemble pas. Donc, la tour de Babel, Dieu a vu ça et dit c'est pas bon. Alors que nous, aujourd'hui, on crée des Nations Unies, on crée des ceci, cela, pour essayer de tout rassembler. Dieu dit, c'est pas bon. Et alors, il emploie une méthode efficace, c'est qu'il donne une multiplicité de langues. Ce que j'imagine, quand je vous dis la Bible dit, c'est la Bible dit. Quand je dis c'est moi qui imagine, c'est mes idées. Hein. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que moi je dis. Ce que la Bible dit, alors là, vous débrouillez avec lui. Mais pour ce que je dis, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ce que j'imagine, c'est que c'était par des familles, hein, qu'il a donné une langue à cette famille-là. Papa, maman, les enfants, les tontons, les tout ça, c'est une famille. Hein. Et puis alors, il y a une langue pour celle-là, une autre langue pour celle-là, et tout d'un coup, ils se sont trouvés dans une situation où ils ne se comprenaient plus. On ne pouvait plus faire de commerce, on ne pouvait plus faire d'échange. Alors on dit, bon, ils ont commencé, moi, nous, on va par là-bas. Et ils sont partis, et ce n'est pas seulement qu'ils sont partis avec leur langue, mais ils sont partis avec tout ce que leur corps contenait. Les gènes, tous les gènes que leur corps contenait comme variété, ils l'ont porté avec eux et ils ont été dans une direction. Et alors, et puis ils se sont installés quelque part sur notre globe terrestre. Et donc, après un certain nombre de siècles, eh bien on retrouve, on dit, ben là, sur ce continent-là, ils ont l'air d'être tous noirs. Sur ce continent-là, ils sont tous, je généralise, hein, parce que bon, noirs, il y a beaucoup de variétés de noirs, et puis après il y a ceux qui sont, on dit jaunes, et puis après il y a ceux qui sont blancs, puis après il y a ceux qui sont, on appelle ça les peaux rouges. Mais c'est parce que c'est des familles qui sont parties, ils se sont reproduits. Et donc ils ont utilisé, et ce qu'on retrouve, ce sont les gènes qu'ils ont là. Lorsqu'il y a deux groupes qui se retrouvent, eh bien on trouve un mélange. Pourquoi? Parce que ça se mélange. On est tous issus de la même personne. On peut se mélanger. Mais parce que, à une époque, on ne se déplaçait pas, on est parti dans un coin, et ça s'est développé. Ça ne veut pas dire que c'était race différente. Il y a une seule race humaine. Parce que si on était des races différentes, on ne pourrait pas se croiser. C'est une seule race. Il y a des ethnies différentes. C'est-à-dire c'est des poules de gènes, hein, que l'un contient, l'autre il contient autre chose, et puis on se les passe entre nous, et ce ne sont que pas des races différentes. Hein, donc, Dieu a voulu qu'on se distribue, et certaines populations ont des points forts, et des points faibles, et d'autres ont d'autres points forts, d'autres points faibles, et c'était jamais dans la pensée de Dieu qu'il y avait une supérieure à l'autre. Non, chacune était, elle représentait ce qu'elle portait. Lorsque Dieu peut reconstituer ce qu'il avait en tête quand il a créé le monde, eh bien il nous dit, il a donné naissance à Jésus, qui est le second Adam. Finalement, parce que le plan du salut de Dieu, c'est une restauration de ce que Dieu avait en vue, et chaque fois qu'il fait restauration, il y a une amélioration. Donc le second Adam est venu pour être le premier d'une nouvelle génération, hein, d'une nouvelle famille. Et en elle aussi, elle contient une grande diversité. Autant la diversité n'était pas issue du mal, du péché, dans la première création, autant cette nouvelle génération que nous pouvons devenir, à laquelle nous pouvons appartenir en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, contient une grande diversité aussi. Hop là. Alors, Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 10, je vais le lire. Éphésiens chapitre 1, les versets 7 à 10, nous dit « En lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de la grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein, voilà, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. » Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en lui. Le but de Dieu, c'était de ce que le péché a détruit, a dispersé, Dieu a voulu le reconstituer. Et il le reconstitue en Christ. Donc il reprend, il rattrape tout ce qui a été dispersé, perdu, abîmé, et puis il le récupère. Donc je développe cette pensée. Donc l'objectif de Dieu, dans le plan de salut, est de restaurer la création. Dieu avait créé une bonne chose. Le péché est venu, et ça a détruit pas mal de choses. Déjà, nous regardons la nature, et on la trouve belle, mais ça c'est des restes. Ça c'est les déchets de ce qui est arrivé. Dieu avait des bonnes choses en vue. Et Dieu, par Christ, vient pour restaurer et reconstituer, et il va améliorer dessus. Alors que ce qui était, ce qu'il avait créé dans le jardin d'Éden, c'était tout à fait terrestre, mais merveilleux, hein, on appelait ça un paradis. Ben, ce qu'il va faire en Christ, c'est pas seulement limité à la terre, mais ce sera étendu jusqu'aux cieux. Alors, Romains chapitre 8, versets 20 à 21, il nous parle justement de cette rédemption, nous pensons toujours à rédemption dans le sens que, merci, nous parlons toujours dans le sens de la rédemption de l'être humain. Mais lui, il parle de rédemption de toute sa création. Hein, les versets 20 et 21, il dit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » C'est-à-dire, c'était pas prévu que les choses meurent, que les animaux meurent, que tout ça meure. C'était la vie que Dieu avait créée. Le péché a apporté la mort. Et la nature attend que le jour où elle sera libérée de ce que le péché a imposé pour retrouver la vie. Autant nous retrouvons la vie, autant la nature veut retrouver la vie, telle que Dieu l'a prévue. La coutume de Dieu, c'est toujours d'améliorer lorsqu'il restaure. Nous, tout au mieux, on prend une voiture à la casse, hein, vous travaillez dessus, vous remplacez les pièces, vous arrivez presque à la remettre dans l'état de neuf. Mais c'est jamais du neuf. Tandis que Dieu, quand il restaure, non seulement il remet à neuf, mais c'est encore mieux que le neuf. Hein, et c'est ce qu'il veut faire de chacun de nous, c'est ça son ambition. Regardez le résultat, parce que Dieu, il a déjà enregistré la vidéo du produit. Hein, et Apocalypse chapitre 5, versets 9 et à 10, il dit « Et il chantait un cantique nouveau. » Un cantique nouveau, pourquoi ? Parce qu'il y a un contenu nouveau. Parce que, tout d'un coup, on réalise ce que Dieu a fait. Ah, c'est une chose, on vient de la découvrir. Eh bien, on compose un chant. Hein, donc, c'est un cantique nouveau. Il dit « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » L'intention de Dieu, c'est de rassembler toute cette variété qu'il avait prévue, de la rassembler, et faire un peuple nouveau. Jean regarde, et qu'est-ce qu'il voit ? Il dit, mais je vois des gens de toutes les langues. Je vois des gens de toutes les cultures. Je vois des gens de toute origine. Il les voyait encore. Si vous avez cette idée que quand on sera dans le ciel, on sera tous blancs et habillés en blanc, et on se ressemblera tous, vous avez tout faux. Parce que le ciel ne peut pas être moins bien que ce que Dieu a fait sur terre. C'est un Dieu de variété. Il va regarder en disant, tiens, il y a des Kabyles même. Et puis il y a des Congolais. Ah ben je vois un Indien. Ah, il y a même quelques Américains. Et puis regarde là. Cette petite tribu là dans la montagne où personne n'était au courant. Ah, il y a quelqu'un là. Et on pourra les identifier. Et je me demande même s'il n'y aura pas la couleur. Et s'il y aura, et on se demande même s'il n'y aura pas les habits, parce qu'il a vu de toute culture. Hein, il a pu identifier les gens à part de leurs origines. Et il a fait une épouse belle, composée de couleurs, et de formes, et puis, parce que tout ça glorifie Dieu au plus haut point. S'il avait besoin que des blancs, parce que ce serait tout blanc, ben il aurait le plan du salut, ce serait pour des blancs. Mais ça, c'est une idée fausse. Dieu a voulu, il veut une épouse belle, de toutes les couleurs, pas qu'une robe blanche. Hein, lui, il ne calque pas les coutumes des hommes. Il a son idée. Je me rappelle, j'étais à un mariage. Qu'est-ce que vous dites ? Du Côte d'Ivoire. Et alors, ils étaient habillés dans les vêtements de mariage du pays. C'était pas la robe blanche occidentale, c'était autre chose, mais c'était joli. Hein? Dieu veut, il a son idée de ce qu'il veut comme épouse pour son mari, son fils. Alors, notons quelque chose. Chez l'homme, l'uniformité crée l'unité. L'image classique, c'est une armée. Ils ont tous la même uniforme, tous la même taille, et tous marchent pareil. Et ça c'est l'unité. Vous regardez dans les... On crée des partis politiques. Si on a tous la même idée, pareil, on peut travailler ensemble. Chez les hommes, le seul moyen de créer de l'unité, c'est d'imposer l'uniformité. Soit dans les apparences, soit dans la manière de faire, soit dans la manière de penser, dans la manière de parler, on veut l'uniformité. Ça, c'est tout ce que l'homme peut faire. Et il a du mal. Tandis que pour Dieu, eh bien, l'unité, c'est dans la relation. C'est le fait d'avoir une relation avec une même personne. C'est notre unité. C'est pas parce qu'on est pareil, et on n'a pas à se ressembler, c'est parce qu'on est tous... On a une relation avec la même personne, Dieu. Et c'est ça qui fait notre unité. Et il faut comprendre cela. Alors, le signe caractéristique des disciples de Christ, dans Jean 13, 35, c'était quoi? C'est pas qu'ils se ressemblaient. C'est le fait qu'ils avaient de l'amour, les uns pour les autres. C'est ça qui a fait, qui montrait qu'ils étaient unis, enfants de Dieu. S'il va aller faire une photo des disciples de Jésus, j'imagine qu'il y avait des gros, des grands, de toutes sortes. Il y avait un qui savait se comporter, il est cultivé, et puis il y avait un autre qui était vraiment simple, comme on dit, campagnard. Ils étaient tous là-dedans. Parce que Jésus, il ne cherche pas qu'on se ressemble, il cherche qu'on ait une même relation avec lui. Et c'est important. Et c'est important que, parce que souvent, on impose dans l'Église des vérités du monde. Et on a des problèmes, on se demande pourquoi. Non, on n'a pas à se ressembler, tout le monde n'est pas pareil. Dans les Églises de Christ, c'est des gens, mais de toutes sortes. Alors, une caractéristique de l'œuvre de Dieu, c'est l'unité dans la diversité. S'il y a unité, alors que c'est très varié, ça c'est un témoignage pour Dieu. Dans le sens que, si on avait une église où tous sont des étudiants, tous des étudiants en physique, ce serait un mauvais témoignage. C'est pas qu'on a quelque chose contre eux. Mais ça ne reflète pas l'œuvre de Dieu. Bon, un groupe d'étudiants, d'accord, ça fait club, tout ça, mais ça fait pas église. Si on a une église où ils sont tous, c'est tous des ouvriers, ils arrivent tous à l'église tenus en bleu, on dit gloire à Dieu, mais bon, c'est pas ça. Si on a une église où ils sont tous de même taille, tous 1m80, tous les hommes 1m80 et toutes les femmes c'est 1m60. Ben, c'est pas une église. Ça c'est autre chose. C'est qu'on on a donné de l'importance à quelque chose, mais pas à la relation. Alors quand moi je peux dire là quand on est vous allez dire mais alors une église ethnique, ils sont tous camerounais, est-ce que c'est mal? Mais si, même si, parce que si c'est une église où ils sont tous camerounais parce que c'est un Cameroun où il n'y a que des camerounais, je dis ils font quand même de la variété. Parce qu'il faut des gens qui ont fait des études, des gens qui n'ont pas fait d'études, il faut des gens qui ont des talents et des gens qui n'ont pas de talents, il faut des garçons, des filles, il faut de la variété. Il faut que ça soit mélangé, parce que dans n'importe quel lieu géographique, on a une variété de gens. Et il faut que l'Église reflète cette variété. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alors si une Église dit, non, nous, on sait ce qu'on veut, on a une population... cible, et c'est ça, et c'est des gens qui remplissent ces conditions, on n'a plus la pensée de Dieu. Donc je dirais même, vous savez, je peux le dire parce que je suis américain, mais aux États-Unis pendant longtemps on a eu des églises, on a les églises de blancs et des églises de noirs. Hein? Et ça ne pouvait pas être bien. Pourquoi ? Parce que souvent, ils habitaient les mêmes villes. Et ça ne pouvait pas refléter l'œuvre. Et les conséquences, on les paye encore aujourd'hui. Ça ne peut pas être bien. Parce que s'ils étaient tous les deux là, il fallait qu'ils soient ensemble. On y travaille maintenant. On devient conscient. Et vous savez, aux États-Unis, ça devient beaucoup plus courant maintenant d'avoir des églises mélangées. Ça se travaille. Bon, si on est dans un quartier où il n'y a que des blancs, ben bon, que des blancs, mais il y a toutes sortes de blancs. Pas seulement en fonction des couches sociales. Il faut qu'il y ait toutes les couches sociales, tous les niveaux d'éducation. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Galates 3, 26 à 28. Parce que dans l'Église primitive, ils avaient des problèmes à ce niveau, et c'est pour ça que nous avons des enseignements sur ce point-là. Galates 3, 26 à 28. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Voilà. C'est sur cette base-là que vous êtes devenus enfants de Dieu. Tous. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Christ. C'est-à-dire, on ne fait pas de distinction, vous êtes juif, vous êtes païen, on est différent. Il dit, vous êtes tous un, mais dans l'Église, on va trouver, on ne va pas dire, maintenant chez nous, il n'y a plus rien. Il n'y a ni juif, ni païen, ni rien. Non, non. Dans l'Église, il y a et juif et païen, et homme et femme, et esclave et libre. Les maîtres étaient dans la même Église que leurs esclaves. C'était ça l'Église de Jésus-Christ. C'était pas, bon, les esclaves, vous vous retrouvez là-bas, nous les maîtres, on les trouve là, les femmes, c'est ailleurs. Non, non, c'est ensemble. Parce que vous êtes tous un en Jésus-Christ, mais vous gardez, vous restez homme, vous restez femme, vous restez juif, vous restez païen, pas de problème. Hein? Chacun est invité à vivre pleinement ce qu'il est. Vous êtes femme, soyez épanouie. Vous êtes esclave, il dit, servez le Seigneur. En tant qu'esclave, vous le faites à la gloire de Dieu. Vous êtes maître, faites valoir les attributs de l'œuvre de Christ dans vos vies, dans vos relations avec vos esclaves. Vous êtes juifs, restez juifs, mais soyez des juifs selon Dieu. Et donc, on peut être dans l'écriture. Je suis japonais et je suis dans l'église, ben reste japonais, mais tu peux être dans l'église avec des Inuits. C'est pas un problème. Si vous vous retrouvez ensemble, vous êtes dans le même territoire, soyez ensemble. C'est un témoignage pour Dieu. La réalisation de cette intention. L'église ne doit pas refléter l'action du péché. Le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il divise. Vous êtes moins bien. Nous, on est... Vous avez pas d'éducation. Nous, on est éduqués. Vous êtes pauvres. Nous, on est riches. Vous êtes... Non. Ça, c'est l'œuvre du péché. C'est les pensées du péché qui font ça. Le monde, il fait bien ça. L'Église ne doit pas refléter les valeurs et l'œuvre du péché, mais plutôt l'œuvre de Christ. Et Christ, lui, c'est un homme qui a pu naviguer, il a pu passer de la rue chez Zachée, le riche, il a pu aller chez l'un et chez l'autre, et sans distinction, il naviguait par tous les peuples. Et c'est ce que nous devons pouvoir faire. L'Église met en valeur l'œuvre de Dieu, pas les effets du péché. Le monde fait assez pour mettre en valeur les effets du péché. Dans l'Église, on doit mettre en valeur l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre à l'intérieur, dire « mais ici c'est un autre monde, ça ne fonctionne plus comme dans le monde, c'est autre chose. Ici, même si dans le monde on me regarde et tout de suite je suis casé, je suis classé, on soupçonne mes intentions. On voit celui-là, tout de suite, on cache le sac. Ça, c'est dans le monde. Ça, ils en souffrent assez. Rentre dans l'église de Jésus-Christ, et puis on me regarde et on se réjouit. On est content que je sois là. Et j'ai ma place. Et finalement, je peux être ce que je suis. Ça se voit, et ça gêne personne. Ça, c'est autre chose, parce que c'est pas comme ça dans le monde. La diversité, il met en valeur. Il nous a envoyé être des témoins partout dans le monde. C'est pas s'il faut être des témoins partout dans le monde, c'est parce qu'il veut des gens de partout dans le monde. L'unité, il parle de cette image du corps, un corps. Oh, les membres ne se ressemblent pas, mais ils sont tous partie du corps. Si je devais vous mettre une arme à la tempe et je dis il faut que tu sacrifies un membre de ton corps, qu'est-ce que vous choisiriez? C'est embêtant, hein? Écoute, il faut que je te coupe quelque chose, débrouille-toi, trouve quelque chose. Ça serait embêté. À moins d'avoir un membre qui fait très mal. Hein? On sacrifie bien une dent quand elle commence à m'empêcher de dormir. Hein? Ou un appendice quand on est dans la douleur. Hein? Mais c'est vraiment... C'est pas... Pourquoi? Parce que chaque membre, c'est important, on le garde. L'inclusion. Inclure. Assimiler. C'est pas le paquet, on le ficelle et puis on les fait rester ensemble. Non, on assimile, on reçoit, on intègre dans le corps. Et il parle du baptême du Saint-Esprit, nous sommes inclus dans le corps, introduits dans le corps par le baptême du Saint-Esprit. Et donc ce qui se crée, c'est une homogénéité nouvelle. Romains 8, 29, il dit « Nous sommes tous à l'image de Christ ». L'image de Christ, ce n'est pas une ressemblance physique. C'est un ensemble de traits, de comportements, de valeurs qui définissent Christ. Parce que si c'était important sa ressemblance, eh bien il se serait débrouillé pour nous laisser au moins des statues ou quelque chose pour qu'on puisse savoir comment il était. Mais comme ce n'est pas ça qui importe, alors Dieu s'est débrouillé pour qu'il n'y ait pas d'image. Et n'importe quelle représentation de Christ, vous pouvez le défaire comme ça, ce sera toujours faux. Hein? l'église d'Antioche, ou d'Antioche, eh bien, de par sa situation géographique, démographique, commerciale, ça attirait du monde. C'était un grand carrefour dans l'Empire romain, Antioche, et il paraît que, bon, il y avait des gens qui montaient du sud, il y avait ceux qui venaient de l'Europe, il y avait ceux qui venaient du nord, il y avait ceux qui venaient de l'Asie, ils ont dit qu'il y avait même, des Chinois, là, apparemment, dans cette ville, tout le monde faisait commerce. Et c'était un endroit idéal. Et Dieu a pris la flamme qui a été allumée à Jérusalem et il l'a transportée à Antioche, qui est devenu le centre du monde chrétien. Parce qu'il a dit, c'est là où je vais pouvoir lui donner toute sa valeur. C'était normal que ça commence à Jérusalem, parce que Dieu a commencé avec le peuple juif, la ville juive, leur capitale. Mais ensuite, c'était tout à fait la volonté de Dieu. La persécution n'a fait que rendre plus facile l'œuvre de Dieu, l'intention de Dieu. Et c'est à Antioche que s'installe l'Église. Alors là, on pourrait voir les détails. Le commencement, ben, c'est par accident, comme il dit. Il y a des gens qui ont osé évangéliser des païens. C'est tout, il dit, il y a des gens qui, ben, ils étaient tellement zélés, ben, il a commencé à évangéliser des païens, puis ils se sont convertis. Ah bon? Ah ben ça, c'est nouveau. Hein, c'était des gens de Jérusalem, ils étaient un peu embêtés avec cette histoire, mais bon, ils ne pouvaient pas le nier. Mais Dieu a fait. Après, le bruit de ce qui s'est passé à Antioche a été jusqu'à Jérusalem. Le bruit, c'était pas les décibels. Hein. C'est les gens, ils trouvaient ça tellement extraordinaire, ce qui se passait à Antioche, que tout le monde en parlait. Ils disent, mais c'est quelque chose. Un endroit où il y a des Romains, il y a des Grecs, il y a des Indiens, il y a des Juifs, il y a des ceci, ils sont tous ensemble là. Ça fait du bruit à la gloire de Dieu. L'impact, ça a attiré encore plus de monde. Ça a fait boule de neige. Parce que ça, c'était quelque chose où l'être humain peut se retrouver. En fait, l'être humain avait été créé pour cela. Et que lorsqu'il retrouve le milieu pour lequel il a été créé, il est à l'aise. Et vraiment, l'église locale, c'est important que ce soit un endroit où l'être humain, même le pécheur, il dit, je me sens bien là-dedans. Parce que quelque part, j'ai l'impression que ça... Je me rappelle une fois, il y avait une chanteuse assez connue, mais comme moi je ne connais pas les chanteurs et les chanteuses, alors le nom n'est pas resté, mais une chanteuse assez connue, une afro-américaine des États-Unis, et qui a voulu chercher ses sources, ses origines. Elle dit, je sais que je viens, vu mon apparence, je sais que je viens de l'Afrique. Alors elle a dit, c'est marrant parce que j'ai écouté, elle dit, ce que j'ai fait, j'ai commencé à écouter des musiques. Elle a commencé à écouter des musiques, et tout d'un coup elle a trouvé la musique d'une certaine tribu, ça, il y avait de l'écho. Elle a dit, ça me parlait encore plus que les autres. Alors elle a fait un voyage, elle est allée là-bas, et puis elle a dit, je me suis senti tellement bien là-dedans, c'était mon milieu. Elle dit, je me suis dit, ça doit être d'ici que je trouve mes racines. Vous savez, le pécheur qui vient dans une église et qui trouve vraiment l'esprit que Dieu a voulu, et qui a restauré, il est en train de reconstituer, cet être humain qui a perdu toute trace de ses origines, il ne sait plus, tellement il a été perturbé dans la vie, il rentre là et dit, j'ai l'impression que ici je vais trouver mes racines, mes vraies racines. Et il les retrouve dans l'œuvre de Dieu. Le rayonnement, ben acte 13, le Saint-Esprit a rassemblé les anciens de l'Église et a dit, écoutez, je veux deux hommes. Vous avez prêché ces deux hommes. Barnabas, juif de juifs, pharisien, tout ça, mais il a été converti, mais il a reçu une éducation. Et ces deux-là, on va les envoyer. Et ils commencent à voyager dans l'Empire romain. Et partout où ils passent, l'évangile a le même effet. Et ça commence à se répandre. Mais depuis Antioche, pour que ça parte, ça quitte Jérusalem, il fallait de la persécution. Il fallait que Dieu donne un coup de pied dans la braise et il envoie des étincelles dans tous les sens pour que le feu prenne ailleurs. Antioche, ils sont partis spontanément et ils sont partis dans tous les sens. Et le privilège, c'est qu'ils ont pu revenir et rendre des rapports à l'Église, dire, vous savez, on a été dans les églises, on a prêché aux Juifs, on a prêché aux païens, on a été dans là-bas, on a été par là-bas, on a... et tu sais, partout, des âmes qui louent Dieu. Et c'est un privilège de pouvoir voir cette œuvre de Dieu se réaliser. L'homogénéité que Christ recherche dans l'Église, eh bien, il y a certaines choses qu'il faut corriger. D'abord, une Église n'est pas ethnique. L'ethnie n'est pas la base de l'Église. Ce n'est pas la pierre de construction de l'Église. L'ethnie, nous en avons une chacun, certains sont un mélange de pas mal de choses, mais ça, c'est pas la base. C'est pas la culture non plus. La culture n'est pas le milieu, n'est pas le lit de l'Église. La culture est là, nous avons chacune nos cultures, et moi j'ai assez voyagé, j'ai été exposé à assez de cultures pour vraiment avoir une appréciation pour chacune. Et si les cultures ont duré des siècles, c'est qu'il y avait quelque chose quand même de valable. Et elles ont chacune à sa manière de répondre aux besoins des êtres humains. Une église, c'est pas le rang social, c'est pas les besoins sociaux qui créent l'église. C'est une mauvaise base. C'est pas intellectuel, c'est pas pour les gens éduqués, tout ça. Le monde peut produire cela. Il faut que l'œuvre de Dieu soit distincte de ce que l'homme peut faire. On doit arriver à un point, vous savez, les 10 plaies, il y avait un temps, les magiciens pouvaient reproduire ce que faisaient, mais il y a un moment, ils ne pouvaient plus. Et il faut que notre église, notre vie d'église soit telle que l'homme va essayer de reproduire ça, il va avoir des religions, il va avoir toutes sortes de choses, ils vont faire des choses pour essayer de reproduire, mais il y a un moment, ils ne peuvent plus copier. Et ça, c'est quand on commence à vraiment mettre en valeur l'œuvre de Dieu. Alors si notre vie d'église et notre relation à l'église, tout ça ressemble à une religion comme les autres, c'est pas l'œuvre de Dieu et c'est pas bien. Si c'est un truc où mes enfants grandissent, ils naissent là-dedans, on les baptise et puis grandissent là-dedans, et puis on va à l'église, on a des fêtes, on a ceci, pour les fêtes on a certaines manières de faire les choses, c'est tout, c'est culturel, et bien c'est pas l'église de Dieu, c'est un mauvais témoignage. Dieu, ce qu'il fait, il dit, il ne travaille pas sur la culture, ni sur la langue, ni sur l'intellect, il dit, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire, ils ont dit, des disciples, quand ils ont arrêté, ils ont pris connaissance qu'ils avaient été avec Jésus. Il dit, vos idées là, ça ressemble un peu à ce que Jésus disait. Votre manière de voir les choses, c'est un peu ce que Jésus... Ben c'est ça, semblable à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Ça crée une nouvelle homogénéité. Ce qu'on a en commun, ce n'est pas nos ressemblances, ce n'est pas notre langue, ce n'est pas notre culture, mais c'est le fait qu'on est tous en train de tendre vers une ressemblance de Christ. Et ce sont les traits, les attributs de Christ qui nous définissent, et plus notre apparence. Ah, toi, un Algérien, je parle d'Algérie parce que, un Algérien dit « je suis chrétien », on lui dit « ah, toi tu dois être kabyle ». C'est pas ça. Je ne suis pas chrétien parce que je suis kabyle. Je suis kabyle, oui, je suis kabyle. Mais je suis chrétien parce que j'ai une relation avec Jésus-Christ. tu es chrétien, oh, bon, tu dois être français. Non, je sais pas, être français, ça n'a rien à faire. Vous savez, parce qu'on est en France, je vais employer le français. Le français naturel, c'est un français pêcheur. Il a une nature pécheresse qui s'exprime au travers de sa culture, au travers de son éducation. Mais sa nature pécheresse, voilà. Et là, il est français. Il rencontre Jésus-Christ. Il naît de nouveau. Il devient un français chrétien. Il est français chrétien. Et puis après, on continue, comme on a parlé tout à l'heure, l'œuvre de Dieu, c'est vrai. On s'accapare de tout ce que Dieu a prévu pour nous, et ce français s'en transforme au point où il devient un chrétien français. Il est avant tout chrétien, mais il est français. C'est-à-dire, c'est ça l'évolution qui doit se faire dans nos vies. Et l'Église doit être composée de... Il y a des gens qui sont français chrétiens, sont nés de nouveau, mais bon, ils sont encore très français, hein, c'est le français qui domine. Mais l'Esprit de Dieu continue son œuvre au point où c'est l'œuvre de l'Esprit qui domine. Donc il est d'abord chrétien, mais il est encore français parce qu'il aime bien son pain et son boursin et puis et son fromage. Et ça c'est très bien. Hein? Et c'est ça qui est beau avec Dieu. C'est que je n'ai pas besoin d'abandonner tout ce que j'ai aimé avant, qui fait partie de ma culture, de mon éducation. Hein? Dans l'église, on a des gens de différentes origines. Et quand on fait un repas fraternel, alors là, on a du choix. Hein. Et il y a une sœur tamoule, hein, donc indienne, sur la table, il y a des plats français, il y a des plats d'Afrique du Nord, il y a des plats du Congo, il y a des plats d'Inde, tout ça. Je lui dis, Violet, toute la semaine, tu manges du riz. Aujourd'hui, tu as l'occasion de manger autre chose. Choisis autre chose. Il dit, non Steve, je mange du riz. Je dis, tu as le droit. On te demande pas de changer. Hein, va pas... Non. Elle dit, pourquoi je vais manger un steak avec des frites? Il y a du riz. Voilà. Mais vous voyez, c'est ça. C'est la beauté de la chose. Les églises homogènes, comme les assemblées multiethniques, sont appelées à prendre une nouvelle forme, l'image de Christ. Même si je suis en Dordogne, et il n'y a que... Non, en Dordogne, il y a des Anglais aussi, je crois. Il y a pas mal d'Anglais, là. Mais si je suis dans une région où il n'y a que des Français... Et les Français, je dirais même, c'est tous, bon, on va dire la Bretagne, hein, c'est tous des Bretons même. Mais ils sont tous des Bretons, donc l'Église ne peut pas être autrement que composée de Bretons. Mais est-ce qu'il y a quand même cette variété? Il y a de tout. Hein, c'est très important. L'Église locale doit refléter dans sa composition le milieu dans lequel elle vit. Tout ce qu'il y a dans le village, il faut qu'on le retrouve dans l'Église pour que ça soit bien fait. Je plaisante beaucoup avec notre Église à Saint-Denis, je dis tout ce qu'il y a dans le métro, on le trouve dans l'Église. Hein? Malheureusement, à Paris, c'est le seul endroit où tout le monde se retrouve pareil, c'est dans le métro. À l'Église aussi. L'Église doit proclamer son message sur tous les terrains. Donc on ne regarde pas bon, ce quartier-là, c'est tous des Arabes, tout ça, on ne va pas aller par là-bas, on va aller témoigner par ici. Pourquoi? Oui, ben, le Seigneur peut les sauver, mais bon, on ne sait pas comment faire tout ça. Ben, apprenez à le faire. Elle met en valeur la puissance universelle du message de l'Évangile. Vous savez, j'ai à l'église, on a des visiteurs qui viennent pour la première fois, ils ont été invités, ils arrivent, ils débarquent, hein, c'est inconverti, hein, ils ne connaissent pas le Seigneur, ils débarquent dans l'église. Et puis, donc ils connaissent ni la Bible ni rien du tout. Ils débarquent. Puis ils viennent. Et après ils reviennent. Et ils reviennent. Et après, à un moment, je vais les voir, j'ai dit, écoute, après il y a un travail qui se fait dans leur cœur et tout ça. Et après, j'aime toujours leur demander, je dis, mais la première fois, d'accord, tu es venu en touriste, hein, pour regarder. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu es revenu la deuxième fois? C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi tu es revenu? Et vous savez, la réponse que je reçois le plus souvent, c'était pas, tes prédications sont telles que je ne pouvais pas m'empêcher de revenir. J'ai jamais entendu ça. Bon, peut-être c'est ça que je cherchais, je ne sais pas. Dans tous les cas, mais vous savez ce qu'ils ont dit? Je suis rentré et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait là. J'ai vu des gens comme ça, j'ai vu. Puis souvent ils disent, et puis j'ai vu des Arabes. Et je me suis dit, il doit y avoir quelque chose. Parce que le truc le plus. Dans l'imagination de beaucoup, la chose la plus impossible, c'est de trouver des Arabes musulmans, hein, dans l'église. Chrétien. Surtout, il y avait une époque où on avait le frère qui faisait la prédication, on dit, bon, maintenant c'est le frère Ahmed qui va faire la prédication. non, mais c'est. Ils ont dit, on est revenu parce qu'on a vu qu'il y avait comme ça, on a dit, il doit y avoir quelque chose ici. Et si ce quelque chose y a l'air, je sais pas, ça me fait remonter à des racines, hein, vous rappelez tout ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression. Il dit, je suis revenu parce que je voulais comprendre ce que c'est. Bon, en revenant, ben, ils ont entendu le message. Hein. L'église doit refléter l'œuvre de l'esprit qui surmonte les préjugés que peut avoir la société. On a tous grandi dans des familles et en grandissant, eh ben, on nous a, quelle que soit la culture dans laquelle on est né, on a toujours entendu, il y a des gens, méfie-toi de ces gens-là. Hein? Donc, peu importe le pays où on a été, attention ces gens-là, méfie-toi de ceux-ci, ceux-là ils sont comme ça. On l'a tous entendu. Hein? La question c'est que l'œuvre de l'esprit en nous est telle que ces idées que j'avais reçues, eh bien maintenant je les ai plus et n'ont plus de pouvoir sur moi. Je dis, j'ai entendu des choses, mais bon, l'évangile, peu importe, même si c'est vrai, c'est pas important pour moi, Dieu les aime. Hein? Alors, comment est-ce que l'Église peut mieux répondre aux besoins spirituels d'une société multiculturelle? Ça, c'est le cas dans les grandes villes maintenant, de plus en plus, on se trouve dans ces situations où il y a une variété de gens. Hein, c'est rare maintenant de pouvoir aller ici en Europe, par exemple, d'aller dans une église où on trouve qu'il n'y a pas, hein, ce qu'on dit, des étrangers, des immigrés ou quelque chose comme ça. Hein. Presque, je dis heureusement qu'il y a quelques immigrés en France, parce que sinon nos églises seraient en piteux état. On aurait moins de pasteurs, on aurait moins de gens dans l'église, il y aurait moins. Vraiment, hein, l'église de France, elle souffrirait s'il n'y avait pas tous ces immigrés chrétiens. Et il est bon de l'admettre. Et dire merci Seigneur, maintenant Seigneur, puisqu'ils sont là, eh bien on va travailler ensemble pour faire. Hein. Alors l'église multiculturelle, c'est-à-dire où le français reste français, où l'indien reste indien, le congolais reste congolais, et chacun même vient avec ses tenues nationales, c'est bien, c'est joli. Hein? Le français il a le droit de venir avec son béret aussi. Oui. Non, mais je crois que c'est bien dans une église où on peut regarder quelqu'un et dire, ah tiens, ben, je vois tout de suite d'où il vient. C'est bien. Parce que dit, ça, il y a des gens de là-bas qui sont au Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. C'est un témoignage. Il parlait d'un ancien musulman qui s'était converti. Il lui dit, mais bon, on lui a laissé son nom. Il s'appelle toujours Mohamed. Je lui dis, mais c'est une bonne chose. Heureusement, vous avez laissé son nom. Il n'avait pas fait changer de nom. Parce que chaque fois qu'il donne son nom, il dit, moi, je m'appelle Mohamed et je suis chrétien. Tout de suite, c'est un témoignage pour Dieu. Nous, on attend de l'Église des gens qui sont d'origine hindoue et qui ont des noms d'origine hindoue. Il suffit d'entendre leur nom, on dit, bah, celui-là, il est hindou. Mais non, je suis chrétien à l'Église de Christ. Ah, c'est un témoignage. Alors, oui, portez votre variété. Il ne faut pas avoir un complexe. Mais mettre en valeur l'œuvre de Christ. L'Église multiculturelle ne peut subsister qu'en renforçant l'amour de Christ. C'est pas parce qu'on a mis des Congolais avec des Français, avec des Chinois, avec des Américains, et on les a mis tous dans une salle et on a fermé la porte qu'il y a une Église. Hein. Ça prend plus que ça. Mais lorsqu'il y a de l'amour de Christ qui se répand et qui est exprimé entre les uns et les autres, là c'est quelque chose. Là c'est l'œuvre de Dieu. Et vous savez, des fois... On le vit, hein. Il y a des chocs entre les cultures. Il y a certaines cultures où on dit vous voulez une tasse de thé ? Non, merci. C'est la politesse de dire non. Même s'il en veut, même s'il est en train de mourir de soif, il doit dire non, merci. T'es sûr ? Non, non, merci, ça va. Vraiment, il y en a tout près. Non. Mais écoute, je vais t'en servir. Et puis après, il va le boire, il va en prendre trois. Mais c'est la politesse chez lui. Mais vous allez dans une autre culture, vous dites non, merci, ben, bon, ça y est. C'est terminé. Et l'autre, il est encore... Et il y a un gars qui est en train de mourir de soif dans votre maison. Mais c'est parce que deux cultures ne sont pas comprises. Et donc, ça, on peut avoir ça. Hein, donc, il faut pouvoir. Ben, nous où on sent vraiment la culture, hein, c'est là où tu peux rire, la culture, c'est dans la crèche, une maman et son bébé, ça, la culture a dominé, il n'y a pas de problème. Elle fait comme sa mère a fait. Et donc, quand on met du personnel dans la crèche, eh bien, on tient compte de cela, et on met du personnel qui sait faire comme chaque culture. Hein, on mélange. Et une fois on avait un petit puisque je suis à Bordeaux là, vous connaissez Magali Thibault, Magali Servas, oui. Elle avait son frère était tout bébé hein, quand il venait à l'église et puis il y a une dame blanche qui est venue pour s'occuper de lui et lui il a vu la dame blanche. On mélange. Le bébé, ben, il fait ce qu'il a l'habitude. Hein. Donc on mélange et puis bon, vous savez, au mariage aussi, hein, la culture domine. Hein. Quand il y a un mariage, il faut laisser faire la culture. C'est parce que c'est précieux. Dans toutes les cultures, un mariage, il y a une manière de faire qui est bien, qui est meilleure que tous les autres. Puis à l'enterrement aussi. Hein. Ça c'est des points là où vraiment il faut savoir. Savoir où respecter, et c'est. Mais parce qu'on a l'amour, tous on a l'amour, et on sait que c'est important pour lui, que ça doit faire comme ça, ben on est d'accord. On va marcher. On dit, comment tu fais ? Nous on fait comme ça. Et bien, écoute, dans cela, on va faire avec toi. Pourquoi ? Parce que je t'aime. Hein ? Et c'est l'amour qui rend possible. Et on arrive à préserver la variété, et en même temps, faire des choses ensemble. Ce que la culture peut régler dans une assemblée homogène ne peut pas l'être que par l'Esprit de Dieu dans une église multiculturelle. Parce que si on a une église, par exemple, où on est tous français, eh bien les Français, ils ont des manières de régler certaines choses. Mais si on est un mélange de toutes sortes, alors on ne peut pas faire comme les Français font pour régler. Il faut aller voir. Moi, je remercie le Seigneur que dans notre assemblée, le conseil d'anciens est composé de gens d'origine très variée. Hein. Bon, déjà, le pasteur, il a un mélange de pas mal de choses. Il ne sait plus d'où il vient. Mais après, il y a un frère antillais, il y a un frère indien, il y a un frère algérien. Et bientôt, j'espère qu'on va avoir un frère congolais. Parce qu'après, quand une question est soulevée, et on dit, ben, le problème, hein, bon, c'est une famille indienne. Et bien tout de suite, les frères disent, écoute, Jean-Pierre, faut que tu nous expliques le problème, mais dans votre culture. Ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, comment dire, on veut respecter cela. Après, la question de la Bible, elle a des valeurs, mais elle les exprime au travers de la culture. Parce que sinon, on va imposer à la personne quelque chose qui ne lui convient pas, elle n'est pas à l'aise avec. Elle va le faire parce qu'elle est forcée de le faire, mais ça ne règle pas le problème. Et par exemple, un jeune homme et une jeune fille sont attirés l'un à l'autre. Dans la culture française, eh ben, ils sont attirés, ben, ils s'assoient ensemble. Mais chez les Indiens, ils font semblant de ne pas se connaître. Il y en a un est assis là, l'autre là-bas. Alors quand, s'il y a deux Indiens, ils veulent faire comme les Français, puis s'asseoir ensemble, tout d'un coup, la communauté indienne elle dit, il se comporte pas mal, c'est pas chrétien ça. Même si le Français peut le faire, et c'est bien, l'Indien ne peut pas le faire. Vous voyez, c'est... Parce qu'il n'y a pas une réponse biblique. Il n'y a pas de verset biblique qui dit on ne peut pas s'asseoir ensemble ou il faut s'asseoir ensemble. Donc là, il faut respecter la culture. Mais parce qu'il y a l'amour de Christ qui est là, alors on tient compte de toutes ces choses. Comment on est avec le temps ? Bon, je vais aller rapidement sur ces trucs-là. Alors, des réponses ethnocentriques, c'est-à-dire centrées sur une ethnie, hein, sur une culture. Law, L-A-W, c'est un Chinois qui était au Texas et qui avait, dans son église, il avait des Américains et puis il avait beaucoup de Chinois. Et il a commencé à essayer d'étudier la chose, parce que c'est quelque chose d'assez récent, hein. C'est quelque chose qui est une quinzaine d'années qu'on commence à se rendre compte de cela, et donc vous n'avez pas trouvé beaucoup de livres, on trouve des trucs sur l'internet maintenant, par rapport aux églises multiethniques, mais sinon pendant longtemps c'était quelque chose d'inconnu. Hein. Alors, si on a cette idée, on dit, bon, écoutez, moi, il n'y a pas de différence, on est tous pareils. Vous dites ça, vous ne réglez rien du tout. Parce que c'est pas vrai, on n'est pas tous pareils. Ni est-ce que tous les Français sont pareils. Les Français, ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur lequel fromage c'est le meilleur. Alors, ne dites pas qu'ils sont tous pareils. Hein, c'est De Gaulle qui a dit, comment voulez-vous qu'on gère un pays où il y a 360 fromages ? Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de différence. Il y a des différences, mais ça c'est la richesse et la beauté de l'Église. Hein, donc ne pas penser, il n'y a pas de différence. Non, la différence c'est les grandes catégories. Lui il est noir, moi je suis blanc, mais sinon il n'y a rien. Si, si, il y a beaucoup, beaucoup. Moi, entre ma femme et moi, il y a beaucoup. Mais tous les deux américains. Mais ma femme est croyée à marier un américain. Et une fois qu'elle était mariée, elle s'est rendue compte qu'il n'est pas très américain. Et le jour où elle est allée visiter l'Algérie, elle dit « Ah, maintenant je comprends mon mari. Je sais pourquoi il est comme il est. » Mais oui, c'est comme ça. Et ça a réglé beaucoup de choses dans son esprit. Et quand on accepte. C'est-à-dire, vous êtes différent, donc vous êtes mauvais. On ne le dit pas comme ça, mais on le pense. Il fait pas, ça ne peut pas être bien. Vous ne faites pas comme nous on fait, ça ne pourrait pas être bien. Vous savez, les épingles à linge françaises ne sont pas comme les épingles à linge américaines. Qui a les meilleures épingles à linge? Bon, je vous laisse décider, mais on ne fait pas pareil. Hein, il faut accepter. Il ne faut pas dire, c'est pas comme nous, donc c'est pas bien. J'accepte que vous soyez différents, mais je suis meilleur. Et ça fait très mal. Et ça se sent, hein. On ne peut pas juste penser ça et ça va transparaître, hein, dans nos manières de faire. Et dans une église, c'est pas bon. Vous savez ce qui arrive souvent dans les églises? Oui, dans notre église, nous, c'est la porte, elle est ouverte à tous. Oui, on a quelques Congolais, on a quelques Tchadiens, on a quelques ceci, oui, on en a dans l'église. Oui, mais ils sont présents seulement. Ils ne sont pas intégrés. Ils assistent. On les reçoit bien. Mais ils sont quand même... Ou est-ce que c'est assimilé? Je suis différent, donc je suis mauvais. Vous savez, c'est des, nous, dans les classes, les petites classes d'école du dimanche à l'église, on lutte avec ça. Parce que les enfants, il ne faut que reproduire ce qui est le milieu dans lequel ils vivent, et ils disent des choses. Nous, ça fait partie de la formation des moniteurs et des monitrices. Si jamais on entend un enfant dire à un autre enfant, toi tu es noir, tu es sale, le moniteur tout de suite prend cet enfant, il va voir les parents et dit, il y a quelque chose à corriger. Parce que il y a quelque chose qui a été éduqué et c'est faux. Vous savez, on prend le petit chant là, le livre sans parole là, hein, il y a le noir, et puis après il y a le rouge, et puis il y a le blanc, et puis après il y a ceci, cela. Ben chez nous à l'église, c'est pas noir. C'est tacheté. C'est sale, mais pas noir. On doit corriger ces idées. Hein. Et on doit... Parce que notre monde et le péché a fait des choses. Hein. Celui-là, il est typé algérien. C'est un arabe. Celui-là, il est... Non, on doit faire très attention. Et c'est, naturellement, on a tous nos idées. La question c'est renouveler, le renouvellement de l'intelligence, pour avoir une autre vision des choses. Vous n'êtes pas inclusif comme moi, vous êtes mauvais. Vous assimilez pas, vous restez entre vous. Mais pourquoi est-ce qu'ils restent entre eux? Je reconnais les différences, mais elles ne sont pas importantes. C'est pas possible. Mon épouse et moi, on a des différences. La meilleure manière de s'entendre, c'est de reconnaître ces différences. Et d'en tenir compte. Si je fais semblant que non, on est pareil, n'importe comment, on est pareil, même si on n'est pas pareil, on est pareil, ben on serait divorcé il y a longtemps. Hein, c'est parce que c'est une question de relation. Les réponses de l'eau pour ces problèmes ethno-relatifs, eh bien, il faut accepter de vivre dans l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne comprends pas pourquoi il est fait de sa manière. Pourquoi il préfère comme ça, je ne comprends pas. Mais je l'accepte. J'accepte. Il y a des choses, il tient à cela. Eh bien, je laisse. Je continue. L'apprentissage de l'interpathie envers les personnes qui sont différentes. Vous connaissez le mot sympathie. Sympathie, c'est avoir les mêmes sentiments. L'interpathie, c'est on échange les sentiments. Il n'y en a pas certaines qui sont bonnes et certaines qui sont mauvaises. Non, on les accepte. On les échange. L'engagement au pluralisme culturel. C'est-à-dire, bon, ben notre église, on est un mélange de beaucoup de choses. Eh bien, au lieu que chacun impose sa manière de faire, on va trouver un équilibre qui rassemble tout, on sera tous un peu à l'aise. Tout le monde fait un effort. Tous ont fait un effort de s'adapter à l'autre, et on va trouver un équilibre nouveau, qui sera ni, et il n'y aura aucune culture dominante. On est tous ensemble, et on travaille sur le même terrain. Apprendre à évaluer le contexte culturel, essayer de comprendre la personne dans sa culture, dans ses valeurs, son éducation, sa vie. Donc, on va arriver à vivre la spiritualité de marginalité créative. C'est-à-dire que la personne est capable de vivre dans au moins deux cultures différentes, au point qu'il n'est plus membre à 100% d'aucune culture. Tellement je me suis adapté, parce que je veux vivre avec l'autre, que finalement, il y a des choses que j'ai cédées, et que lui a cédées, et puis finalement, on a une nouvelle combinaison. C'est pas que je ne suis plus français, temps en temps les Indiens de l'église, ils vont tous se réunir, alors là ils sont 100% Indiens, là ils sont dans leur culture. Mais quand ils sont à l'église, parce que, eh bien, ils s'adaptent, il y a des choses qu'ils ne font pas. Par exemple, entre eux, les femmes ne serrent jamais la main d'un homme. Chez eux, c'est comme ça. Mais là, à l'église, les dames serrent les mains de tout le monde, sauf les hommes indiens. C'est, voilà, on trouve les équilibres, on s'adapte. L'église n'est pas un refuge pour ceux qui sont fatigués du changement de société. Ah, ça change, c'est tout le temps là. Dans l'église, on reste tradition. On continue, et puis on fait ça depuis 100 ans, c'est pareil, on continue à faire exactement pareil. Non, ce n'est pas un endroit où on dit, au moins là, au moins ça ne change pas, je me retrouve. Ce n'est pas pour ça qu'une église existe. L'église n'existe pas pour préserver une culture. Ce qui arrive souvent, c'est que tous les Congolais qui sont à Paris se retrouvent, et puis alors ils revivent le Congo à l'église. Et l'église, c'est une manière de... Ah. Non, ce n'est pas pour préserver la culture. On vient pour adorer le Seigneur. Bon, on reste Congolais, c'est sûr, mais on est là pour adorer le Seigneur. Il y avait une église haïtienne à Saint-Denis, ils étaient tous haïtiens, et puis il y avait quelqu'un une fois invité à une fille française, et donc c'est là qu'elle a trouvé l'évangile, qu'elle a entendu l'évangile. Bah, c'était la seule blanche au milieu là, la pauvre, elle, c'est sûr qu'il y avait une culture dominante et elle marchait avec, bon, tout ce qu'elle ne pouvait pas suivre c'est la couleur. Mais ça lui fait drôle. Et puis après, pour elle, le seul christianisme qu'elle connaissait, c'était l'expression haïtienne du christianisme. Bon, par la suite, elle était disposée, elle dit, ah bon, on fait comme ça, ah, vous faites comme ça. Ben oui, mais c'est ça la difficulté d'une culture, d'une église ethnique, c'est qu'on ne peut pas assimiler. Et puis après, le deuxième problème, c'est que vous avez des enfants, la deuxième génération, ils grandissent, ils vont à l'école française, et puis après, eux, ils ne se retrouvent plus, c'est pas, eux, ils ne connaissent pas le pays, hein, c'est des immigrés, comme on dit. Et on dit, en région parisienne, on plaisante sur les choses, et on dit, pour les... ceux de peau noire, on les appelle des bounties. Hein, ils sont noirs à l'extérieur, mais ils sont tout blancs à l'intérieur. Parce que toute leur éducation, c'est l'Occident. Ils vont au pays, on dit, mais toi, tu es français. Ils restent ici, on dit, mais toi, tu es congolais. Et ils ne savent plus se retrouver. Mais dans une église multiethnique, il retrouve sa place. Parce qu'il est une variété, il est une autre combinaison de choses, mais il trouve sa place, parce qu'il la trouve en Jésus-Christ. Hein? C'est important pour sa deuxième génération, pour qu'elle puisse trouver sa place. Hein, et... L'Église ne change pas pour survivre. Vous savez, il y a des gens qui disent, bon, les choses changent, donc on change d'instrument sur l'estrade, on change de ceci, on fait le culte autrement, tout ça. C'est pas pour survivre. On dit, mais parce que si on ne change pas, il n'y aura plus personne. Ça, c'est pas une raison pour changer quelque chose, changer de style de musique, changer d'instrument, changer d'habillement, tout ça, c'est pas une raison. Hein. L'intention de Dieu, c'est quoi? C'est de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irréprochable. Sainte. C'est pas la culture. C'est l'image de Christ qui est mise en valeur. Voilà ce verset avec lequel on a commencé. Il dit, un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume, et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ça, c'est l'état final. Pourquoi pas commencer à le vivre maintenant et faire des efforts dans ce sens, hein? Et c'est bon pour nos valeurs, notre vie chrétienne, c'est de commencer à vivre cela. Finalement, dans l'église, on est en train de vivre les adaptations que vivent chaque couple qui vient de se marier. Ils sont en train d'essayer de trouver un équilibre. Moi, là, chez nous, on faisait comme ça, chez moi, on faisait comme ça, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire chez nous? et on trouve une nouvelle combinaison. C'est ni comme papa et maman, ni comme papa et maman de l'autre côté. C'est une nouvelle combinaison pour notre famille. L'Église de Jésus-Christ va être une nouvelle combinaison, mais qui sera la gloire de Dieu et qui en met en valeur la gloire de Dieu. Alors déjà, il faut que ça se passe dans le cœur, puis dans la tête, puis après on le vit. Et ça, je peux vous dire qu'on a eu des gens à venir à l'Église, incroyants, et qui sont partis incroyants. Mais ils ont dit, mais ce que j'ai vu, c'est beau. C'est le minimum qu'on puisse offrir. Il dit, s'il peut partir en disant, si jamais je deviens chrétien, je veux que ça soit comme ça, eh bien on a un bon témoignage. Mais s'il part et dit, bon, chez eux c'est comme ailleurs, ils ont les mêmes problèmes, c'est pareil, il n'y a pas de différence, alors on a un mauvais témoignage. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous sommes bousculés avec des pensées là, et peut-être certaines de ces idées sont assez nouvelles pour certains. Et peu importe nos origines, parce qu'on a tous des idées préconçues, on a tous, peu importe le pays où on a été. Et Seigneur, on est là, et on veut en France, on veut pas des églises françaises chrétiennes, mais on veut des églises chrétiennes françaises, qui sont une représentation de ce qui existe, de ce qui est là. Et Seigneur, même si certaines ethnies ou certaines cultures sont plus difficiles à assimiler que d'autres, mais Seigneur, ce que nous voulons, c'est que ce soit ton Église qui porte gloire à ton nom. Et Seigneur, aide-nous à œuvrer ensemble avec ton esprit pour réaliser ton intention, cette Église glorieuse, composée de gens de toute origine, et sans qu'elles aient à sacrifier ses origines, ou à ignorer, mais à mettre en valeur ce que tu as créé et ce que tu as donné à chacun. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. Amen.
Merci beaucoup aussi. Si chaque personne peut prendre votre chaise, plus une deuxième chaise, mettez-les contre les murs, on va installer toutes les tables. Merci beaucoup. Thank you.